Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Quatrième épisode.
Un soir, que la fenêtre était ouverte, Emma entendit tout à coup sonner l'Angélus. À ce tintement répété, la pensée de la jeune femme s'égarait dans ses vieux souvenirs de jeunesse et de pension. Et ce fut sans en avoir conscience qu'elle s'achemina vers l'église, disposée à n'importe quelle dévotion, pourvu qu'elle y absorbât son âme et que l'existence entière y disparût.
Où est l'abbé Bournisien ?
Il va venir.
Ces polissons-là, toujours les mêmes. Je ne respecte rien. Oh, excusez-moi, je ne vous remettais pas. Comment vous portez-vous ?
Mal. Je souffre.
Eh bien, moi aussi. Ces premières chaleurs, n'est-ce pas, vous amollissent étonnamment. Enfin, que voulez-vous ? Nous sommes nés pour souffrir, comme dit saint Paul. Mais, monsieur Bovary, qu'est-ce qu'il en pense ?
Lui ?
Quoi ? Il ne vous en donne pas quelque chose ?
Ah, ce ne sont pas les remèdes de la terre qu'il me faudrait. Je voudrais savoir...
Attends, Riboulet ! Je m'en vais te chauffer les oreilles ! Mauvais galopin ! Et monsieur Bovary ? Comment va-t-il ? Toujours fort occupé, sans doute, car nous sommes certainement, lui et moi, les deux personnes de la paroisse qui avons le plus à faire. Mais lui, il est le médecin des corps, et moi, je le suis des âmes.
Oui, vous soulagez toutes les misères.
Oh, ne m'en parlez pas, madame Bovary. Ce matin même, il a fallu que j'aille dans le bagne aux villes pour une vache qui avait l'enfle. Ils croyaient que c'était un sort. Toutes leurs vaches. Je ne sais comment. Pardon.
L'autre Marie Boulet, sac à papier, voulez-vous bien filer?
Allez, les cultivateurs sont bien à plaindre.
Il y en a d'autres.
Oh, assurément, les ouvriers des villes, par exemple.
Ce ne sont pas eux.
Pardonnez-moi, j'ai connu là de pauvres mères de famille, des femmes vertueuses, je vous assure, de véritables saintes, qui manquaient même de pain.
Mais celles, monsieur le curé, qui ont du pain et qui n'ont pas...
De feu l'hiver.
Qu'importe.
Comment qu'importe ? Il me semble à moi que lorsqu'on est bien chauffé et bien nourri, car enfin...
Oh, mon Dieu, mon Dieu.
Vous vous trouvez gêné ? Oh, c'est la digestion, sans doute. Il faut rentrer chez vous, madame Bovary. Boire un peu de thé, ça vous fortifiera. Ou bien un verre d'eau fraîche avec de la cassonade.
Pourquoi ?
Mais c'est que vous passiez votre main sur votre front... J'ai cru qu'un étourdissement vous prenait. Et vous me demandiez quelque chose ? Qu'est-ce donc ? Je ne sais plus.
Moi ? Rien, rien.
Alors, madame Bovary, faites excuse, mais je vais devoir avant tout, vous savez. Il faut que j'expédie ces garnements. Voilà les premières communions qui vont venir. Ces pauvres enfants, on saurait les diriger trop tôt dans la voie du Seigneur. Bonne santé, madame. Mes respects à monsieur votre mari.
Elle monta les marches de son escalier en se tenant à la rampe et, quand elle fut dans sa chambre, se laissa tomber dans un fauteuil. La cheminée était éteinte, la pendule battait toujours et Emma vaguement s'ébahissait à ce calme des choses, tandis qu'il y avait en elle-même tant de bouleversements. Mais entre la fenêtre et la table à ouvrage, la petite Berthe était là, qui chancelait sur ses bottines de tricot et essayait de se rapprocher de sa mère pour lui saisir par le bout les rubans de son tablier.
Laisse-moi. Laisse-moi, je te dis. Hey, laisse-moi donc.
garde donc. Cher ami, vous voilà la petite qui, en jouant, vient de se blesser par terre.
Ce n'est rien de grave. Je vais faire un pansement et ça ira. Ne t'inquiète pas, Emma, ce n'est rien. Je vais à la pharmacie chercher du diaquilum.
Madame Bovary ne descendit pas dans la salle. Elle voulut demeurer seule à garder son enfant. Alors, en la contemplant dormir, ce qu'elle conservait d'inquiétude se dissipa par degrés, et elle se parut à elle-même bien sotte et bien bonne de s'être troublée tout à l'heure pour si peu de choses. Berthe, en effet, ne sanglotait plus. Sa respiration, maintenant, soulevait insensiblement la couverture de coton. De grosses larmes s'arrêtaient au coin de ses paupières à demi closes qui laissaient voir entre les cils deux prunelles pâles, enfoncées. Le sparadrap, collé sur sa joue, en tirait obliquement la peau tendue.
C'est une chose étrange comme cet enfant est laide.
Chérie, tu te rendras malade. Puisque je t'assure que ce ne sera rien.
Léon était las d'aimer sans résultat. Puis il commençait à sentir cet accablement que vous cause la répétition de la même vie lorsqu'aucun intérêt ne la dirige et qu'aucune espérance ne la soutient. Cependant, la perspective d'une situation nouvelle l'effrayait autant qu'elle le séduisait. Cette appréhension se tourna vite en impatience, et Paris, alors, agita pour lui dans le lointain la fanfare de ses bals masqués avec le rire de ses grisettes. Puisqu'il devait y terminer son droit, pourquoi ne partait-il pas? Qui l'empêchait?
Eh bien, mon cher Léon, au revoir.
Me reste-t-il encore un peu de temps avant le départ?
Quelques minutes, pourquoi?
Je vais faire mes adieux à Monsieur Bovary. C'est encore moi.
J'en étais sûre.
Monsieur n'est donc pas là?
Il est absent. Il est absent.
Je voudrais bien embrasser Berthe.
Félicité? Veuillez venir avec Berthe.
Adieu, pauvre enfant. Adieu, chère petite. Adieu.
Emmenez-la.
J'ai un manteau.
Ah. Allons, adieu. Oui, adieu, partez.
Ils s'avancèrent l'un vers l'autre. Il tendit sa main, elle hésita.
À l'anglaise, donc.
Léon sentit la main d'Emma entre ses doigts. Et la substance même de tout son être lui semblait descendre dans cette paume humide. Puis il ouvrit la main, leurs yeux se rencontrèrent encore, et il disparut. Quand il fut sous les halles, il s'arrêta et il se cacha derrière un pilier afin de contempler une dernière fois cette maison blanche avec ses quatre jalousies vertes. Il crut voir une ombre derrière la fenêtre, dans la chambre, mais le rideau, se décrochant de la patère comme si personne n'y touchait, remua lentement ses longs plis obliques qui d'un seul bond s'étalèrent tous, et il resta droit, plus immobile qu'un mur de plâtre. Léon se mit à courir.
bien. Nous avons donc tantôt embarqué notre jeune homme.
Il paraît. Ce pauvre Léon, comment va-t-il vivre à Paris? S'y accoutumera-t-il?
Volons donc, les parties fines chez le traiteur, les bals masqués, le champagne, tout cela va rouler, je vous assure.
Je ne crois pas qu'il se dérange.
Ni moi, quoiqu'il lui faudra pourtant suivre les autres, au risque de passer pour un jésuite. Et vous ne savez pas la vie que mènent ces farceurs-là dans le quartier latin avec les actrices. Du reste, les étudiants sont fort bien vus à Paris. Pour peu qu'ils aient quelques talents d'agrément, on les reçoit dans les meilleures sociétés. Et il y a même des dames du faubourg Saint-Germain qui en deviennent amoureuses. Ce qui leur fournit par la suite les occasions de faire de très beaux mariages.
Mais j'ai peur pour lui que là-bas...
Vous avez raison. C'est le revers de la médaille. Et l'on y est obligé continuellement d'avoir la main posée sur son gousset.
C'est vrai. Mais je pensais surtout aux maladies. À la fièvre typhoïde, par exemple, qui attaque les étudiants de la province.
À cause du changement de régime et de la perturbation qui en résulte dans l'économie générale. Et puis, l'eau de Paris, voyez-vous. Les mets des restaurateurs, toutes ces nourritures épicées finissent par vous échauffer le sang et ne valent pas, quoi qu'on en dise, un bon pot-au-feu.
Bonsoir.
Ah, Justin.
Monsieur Homais, je viens vous chercher pour le lait de poule.
Oh, pas un instant de répit. Toujours à la chaîne, je ne peux sortir une minute. Il faut comme un cheval de labour être à suer sang et eau. Quel collier de misère. À propos, savez-vous la nouvelle?
Quoi donc?
C'est qu'il est fort probable que les comices agricoles de la Seine inférieure se tiendront cette année à Yonville-l'Abbaye.
Hein?
Le bruit du moins en circule. Ce serait pour notre arrondissement de la dernière importance. Mais nous en causerons plus tard.
Il doit être loin déjà.
Ah, il était parti. Le seul charme de sa vie, le seul espoir possible d'une félicité. Comment n'avait-elle pas saisi ce bonheur-là quand il se présentait? Pourquoi ne l'avoir pas retenu à deux mains, à deux genoux quand il voulait s'enfuir? Et elle se maudit de n'avoir pas aimé Léon. Elle eut soif de ses lèvres. L'envie l'a pris de courir le rejoindre, de se jeter dans ses bras, de lui dire...
C'est moi. Je suis à toi.
Mais Emma s'embarrassait d'avance aux difficultés de l'entreprise et ses désirs, s'augmentant d'un regret, n'en devenaient que plus actifs. Dès lors, ce souvenir de Léon fut comme le centre de son ennui. Il y pétillait plus fort que dans une steppe de Russie un feu de voyageurs abandonné sur la neige. Elle se précipitait vers lui. Elle se blottissait contre. Elle remuait délicatement ce foyer près de s'éteindre. Elle allait cherchant tout autour d'elle ce qui pouvait l'aviver davantage. Cependant, les flammes s'apaisèrent. Soit que la provision d'elle-même s'épuisât, ou que l'entassement fût trop considérable. L'amour, peu à peu, s'éteignit par l'absence, le regret s'étouffa sous l'habitude, et cette lueur d'incendie qui empourprait le ciel pâle se couvrit de plus d'ombre et s'effaça par degrés. Mais comme l'ouragan soufflait toujours, et que la passion se consuma jusqu'aux cendres, et qu'aucun secours ne vint, qu'aucun soleil ne parut, il fut de tous côtés nuit complète, et elle demeura perdue dans un froid horrible qui la traversait. Alors les mauvais jours de tante recommencèrent. Une femme qui s'était imposée de si grands sacrifices pouvait bien se passer des fantaisies. Elle s'acheta un prie-dieu gothique et elle dépensa en un mois 14 francs de citron à se nettoyer les ongles. Elle écrivit à Rouen afin d'avoir une robe en cachemire bleu. Elle choisit chez Lheureux la plus belle de ses écharpes. Elle se la nouait autour de la taille, par-dessus sa robe de chambre, et les volets fermés, avec un livre à la main, elle restait étendue sur un canapé dans cet accoutrement. Elle avait des accès où on lui poussait facilement à des extravagances. Elle soutint un jour contre son mari qu'elle boirait bien un grand demi-verre d'eau de vie. Et, comme Charles eut la bêtise de leur défier, elle avala l'eau de vie jusqu'au bout. Souvent des défaillances la prenaient, un jour même elle eut un crachement de sang, et comme Charles s'empressait, laissant apercevoir son inquiétude...
Ah bah, qu'est-ce que cela fait ?
Sais-tu ce qu'il faudrait à ta femme ? Des occupations forcées, des ouvrages manuels. Si elle était comme tant d'autres, contrainte à gagner son pain, elle n'aurait pas ces vapeurs-là, qui lui viennent d'un tas d'idées qu'elle se fourre dans la tête, et du désœuvrement où elle vit.
Et pourtant elle s'occupe.
Elle s'occupe ? Et à quoi donc ? À lire des romans, de mauvais livres qui sont contre la religion, et dans lesquels on se moque des prêtres par des discours tirés de Voltaire. Mais tout cela va loin, mon pauvre enfant. Et quelqu'un qui n'a pas de religion finit toujours par tourner mal.
Donc il fut résolu qu'on empêcherait Emma de lire des romans. La fenêtre, en province, remplace les théâtres et la promenade. Emma s'amusait à considérer la cohue des rustres lorsqu'elle aperçut un monsieur vêtu d'une redingote de velours vert. Il était ganté de gants jaunes, quoiqu'il fût chaussé de fortes guêtres. Et il se dirigeait vers la maison du médecin, suivi d'un paysan marchant la tête basse d'un air tout réfléchi.
Félicité, regarde. C'est le propriétaire du château de la Huchette. Il vit en garçon. Et à ce qu'il paraît, il a au moins 15 000 livres de rente.
Monsieur Boulanger, bonjour. Que puis-je faire pour vous ?
C'est cet homme. Il veut être saigné parce qu'il éprouve des fourmis le long du corps.
Nous pouvons peut-être envisager d'autres
soins. Non, non, la saignée. Allez-y, ça me purgera.
Félicité, apportez une bande et une cuvette. Et Justin, puisque tu es là, veux-tu bien rester pour nous aider ?
Oui, monsieur.
N'ayez point peur, mon brave.
Non, non. Marchez toujours.
Allons-y. Ah ! Justin, approche le vase.
Comme j'ai le sang rouge. Ce doit être bon signe, n'est-ce pas ?
Quelquefois, l'on n'éprouve rien au commencement, puis la syncope se déclare, et plus particulièrement chez les gens bien constitués comme celui-ci. Je m'en doutais.
Monsieur ?
Ma femme ! Ma femme du vinaigre ! Oh mon Dieu, deux à la fois !
Ce n'est rien. Venez !
Madame Bovary se mit à retirer la cravate de Justin. Elle resta quelques minutes à remuer ses doigts légers dans le cou du jeune garçon. Ensuite, elle versa du vinaigre sur son mouchoir de batiste. Elle lui en mouillait les tempes à petits coups et elle soufflait dessus, délicatement. Le charretier se réveilla, mais la syncope de Justin durait toujours et ses prunelles disparaissaient dans leur sclérotique pâle comme des fleurs bleues dans du lait.
Il faudrait lui cacher cela.
Madame Bovary prit la cuvette. Pour la mettre sous la table, dans le mouvement qu'elle fit en s'inclinant, sa robe jaune s'évasa autour d'elle sur les carreaux de la salle, et comme Emma, baissée, chancelait un peu en écartant les bras, le gonflement de l'étoffe se crevait de place en place selon les inflexions de son corsage. Ensuite, elle alla prendre une carafe d'eau, et elle faisait fondre des morceaux de sucre lorsque le pharmacien arriva.
Saut ! Petit saut, vraiment ! Saut en trois lettres. Grand chose après tout qu'une phlébotomie et un gaillard qui n'a peur de rien soi-disant. Ah oui, oui. Parle, Justin. Vante-toi. Voilà de belles dispositions à exercer plus tard la pharmacie. Qui t'a prié de venir ? Tu importunes toujours, monsieur et madame. Allons, va-t'en. Cours. Attends, moi, surveille les bocaux. Oh.
Quand Justin fut parti, l'on causa quelque peu des évanouissements.
Je n'en ai jamais eu.
C'est extraordinaire pour une dame. Du reste, il y a des gens bien délicats.
Ainsi, j'ai vu dans une rencontre un témoin perdre connaissance rien qu'au bruit des pistolets que l'on chargeait.
Moi, la vue du sang des autres ne me fait rien du tout, mais l'idée seulement du mien qui coule suffirait à me causer des défaillances si j'y réfléchissais trop.
Cependant, M. Boulanger congédia son domestique en l'engageant à se tranquilliser l'esprit puisque sa fantaisie était passée.
Elle m'a procuré l'avantage de votre connaissance.
Et il regardait Emma durant cette phrase.
Au revoir.
Il fut bientôt de l'autre côté de la rivière. C'était son chemin pour s'en retourner à la Huchette. Et Emma l'aperçut dans la prairie qui marchait sous les peupliers, se ralentissant de temps à autre comme quelqu'un qui réfléchit.
Elle est fort gentille. Elle est fort gentille, cette femme du médecin. De belles dents, les yeux noirs, le pied coquet et de la tournure comme une parisienne. D'où diable sort-elle ? Où donc l'a-t-il trouvé, ce gros garçon-là ?
Monsieur Rodolphe Boulanger avait 34 ans. Il était de tempérament brutal et d'intelligence perspicace, ayant d'ailleurs beaucoup fréquenté les femmes et s'y connaissant bien. Celle-là lui avait paru jolie. Il y rêvait donc. Et à son mari.
Je le crois très bête. Elle en est fatiguée, sans doute. Tandis qu'il trottine assez malade, elle reste à ravauder des chaussettes. Et on s'ennuie. On voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs. Pauvre petite femme. Ça bâille après l'amour. Comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. Avec trois mots de galanterie, cela vous adorerait, j'en suis sûr. Ce serait tendre, charmant. Oui, mais comment s'en débarrasser ensuite ?
Il revoyait Emma dans la salle, habillée comme il l'avait vue, et il la déshabillait.
Oh, je l'aurai. C'est qu'elle a des yeux qui vous entrent au cœur comme des vrilles. Et ce teint pâle. Moi qui adore les femmes pâles. Il n'y a plus qu'à chercher les occasions. Parbleu, voilà les commises bientôt. Elle y sera, je la verrai. Nous commencerons, et hardiment, car c'est le plus sûr.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Adaptation, Pauline Timonier. Quatrième épisode. Avec Pascal Rénéric, Aurélie Nusillard, Philippe Bautier, Hervé Pierre, Myriam Azinko, Cyril Descours, Jean-Claude Frissung, Yvan Cory, Julien Honoré, Alexis Rangard, Peggy Martineau et Basile et Gaspard Dumont, Théo Blanchard, Avel Gessler-Oharo, Aurélien Ziadé, Baptiste Beaurepaire, Hector Elbiges, Caïso Brumel.
Musique originale et piano, Mathieu Lambollet, avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse.
Bruitage, Benoît Fèvre, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Catel Guillot. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Manuel Couturier, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laure Egoroff.